être ici pour prier avec vous. Maintenant, juste avant le message, j'ai mon bon ami ici sur la plateforme ce soir, le docteur Livey, de l'église First Baptist de Lima, qui était l'un de mes sponsors à la réunion de Lima. Je lui ai demandé en venant ce soir s'il ne voulait pas venir dire un mot à la congrégation, peut-être en rapport avec la réunion de Lima, pour un moment ou deux. Et je suis heureux de vous présenter ce soir le docteur Livey, un autre baptiste qui a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Cela était vraiment une déclaration très forte. Et nous sommes très heureux d'avoir Frère Levy avec nous. Et la porte est entièrement ouverte pour qu'il puisse venir nous rendre visite à nouveau. Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est l'ensevelissement du Seigneur Jésus. Et dimanche matin, c'est l'office du lever du soleil à 6 heures. Et je crois que le frère a annoncé la suite de service de l'office. Maintenant, prions un instant. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants à l'homme qui la manie sans crainte comme il la donne au peuple. Et alors que nous ouvrons la Bible ce soir et que nous nous entournons les pages, que le Saint-Esprit vienne nous ouvrir la parole de compréhension par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. En cette grande nuit que nous célébrons, de la crucifixion de notre Seigneur béni, je voudrais ce soir lire de ses lèvres précieuses les paroles qu'il a fait écrire dans son livre dans Saint Matthieu, le 4e chapitre, nous et le 47e et le 48e verset, nous lisons ceci. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Même les publicains ne le font-ils pas? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler de la perfection. Maintenant, cela semble un texte très étrange à prendre pour la nuit de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et vous avez entendu les différents messages des messagers comme ils ont présenté ce grand jour horrible, terrible, où notre Seigneur est mort pour le péché du monde. J'ai donc choisi ce soir d'emprunter un chemin différent pour y arriver. Afin que ce soit un peu différent et que cela puisse vous rafraîchir un peu. Et que le Saint-Esprit béni inspire la parole maintenant, que nous faisons l'effort de la porter. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit. Qu'il n'y a rien qui puisse être atteint à moitié en présence de Dieu. Il doit être parfait. Notre adoration, tout. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin d'Éden et ils péchèrent et transgressèrent les lois de Dieu en péchant, en désobéissant. Et quand vint la transgression, la désobéissance et la transgression de la loi, et la loi de Dieu, lui, étant saint, juste sainte et pure, aucune tache d'impiété ne peut donc jamais se tenir en sa présence. Ainsi, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors le péché doit être traité avant que le pécheur ne puisse jamais se tenir en présence de Dieu. Or, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, lorsqu'elle est invoquée, elle projette la justice. Or, par la loi, aucune chair n'est sauvée. Or, la loi ne peut pas nous sauver. La loi a été la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a pas de pouvoir de rédemption. La loi nous a seulement montré que nous étions des pécheurs et nous a condamnés. C'est ce que la loi doit faire. C'est pour apporter la condamnation ou pour vous montrer où est votre erreur. La loi en elle-même ne pouvait donc pas sauver. Elle ne pouvait que accuser. Et Dieu, étant saint et juste, il devait avoir une poursuite légale. Il devait poursuivre le pécheur parce qu'il avait outrepassé les limites de la grâce et est devenu un citoyen qui enfreignait la loi. Alors, il doit être traité comme tel. Et toute loi a un pénalty. Car la pénalty de la transgression de la loi de Dieu est mort. Elle doit projeter la mort sur la race humaine. Et toute la race humaine est sous la peine de cette loi. Or, lorsqu'Adam et Ève eurent péché, il n'y avait pas d'autre moyen, pas d'autre remède qu'ils puissent se tenir en présence de Dieu si ce péché n'est pas puni. Et aucun homme ne peut commettre un péché de quelque type que ce soit, aussi petit ou aussi grand soit-il. Ce péché individuel doit être traité avant que celui qui l'a commis ne puisse jamais se tenir en présence du Dieu Saint. Ainsi donc, lorsqu'Adam et Ève avaient péché et transgressé la loi, ils étaient sujets à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi elle a mis toute la race humaine sous la peine de la mort. Maintenant, si nous pouvions nous calmer quelques instants seulement dans notre réflexion et regarder cette grande image et nous rappeler que chaque personne ici est incluse dans cela. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine de la mort par la transgression du chef de la race humaine. Adam, par sa transgression, chacun d'entre eux nous est tombé victime du péché. Et le péché doit être traité. Ainsi, Dieu, dans sa grande infinité et son grand amour, la loi devait séparer les pécheurs de son Créateur. Alors, il devenait anéanti et totalement anéanti. Il n'y aurait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ce péché ne soit traité. Et il serait alors très difficile, très facile de croire à l'anéantissement d'un pécheur à la fin, car il est complètement à jamais séparé de la présence de Dieu. Maintenant, remarquez ce péché. Comment Dieu étant juste, et il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la source de toute justice. Alors, il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que de placer la peine pour cette transgression. Et la pénalty était la mort, car il a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras sûrement. C'est une image sombre que nous avons ici maintenant. Mais si nous revenons un peu plus en arrière et que nous découvrons les attributs même de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais pourtant, étant amour, il doit être juste. Donc, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut caresser et avec laquelle on peut jouer. L'amour est la justice de Dieu. Or, lorsque Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient mourir, l'amour souverain est intervenu pour frayer un chemin. Car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de sa présence. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi, et la peine de sa loi était la mort. Et alors l'amour de Dieu s'est manifesté pour ces six jeux. Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par sa préscience, lorsqu'il aimait si bien sa race, pourtant avec le pénalty, il a fait que la mort par substitution ait lieu dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire qu'il a situé une créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché. Et il est allé chercher un substitut pour travailler et mourir à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau tué pour tenir la vie de ses sujets. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang d'agneaux et de chèvres, de moutons, de taureaux et de génisses, une mort de substitution. Mais tout au long de la grande économie de Dieu, il y avait dans son esprit le véritable objet à venir qui serait, ils étaient les ombres du véritable objet à venir. Et le véritable objet à venir était son Fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. Et une ombre n'est que le côté négatif d'un objet. Et il ne parlait que de la venue du calvaire. Maintenant, pour avoir une image de cela, tournons nos Bibles dans le livre des Hébreux. Et prenons ici ce que Paul, le grand apôtre qui parle, essayant de séparer les choses pour nous. Dans le 10e chapitre du livre des Hébreux, nous lisons ceci. Oh, j'aime la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais que dans les jugements, je serai avec eux. Je dois rendre compte. Donc si je la porte de la parole, alors je ne serai pas coupable, parce que c'est la parole et Dieu est responsable de sa parole. Nous voyons tant de choses aujourd'hui. Des évangélistes ainsi de suite se construisent autour de personnalités. C'est une chose honteuse. Oh. Et nous découvrons en allant dans les églises, nous allons dans l'église et vous trouvez un certain pasteur. S'il a un petit acte particulier à son sujet, une petite émotion, si vous ne les remarquez pas, toute la congrégation va prendre cet esprit. S'il est juste un peu émotif, Oui, s'il secoue la tête ou une petite chose bizarre, eh bien, toute l'Église va s'en emparer. Et nous voyons aujourd'hui dans nos églises modernes des sensations et des petites choses comme ça. Et il y en a une telle confusion. Oh, mes frères bien-aimés, s'il y a un moment où nous devions être sur la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je détesterais assister au jugement et savoir que j'ai eu une petite révélation un peu bizarre et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit sur mon action, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu par la parole de Dieu qui produit la vérité. Ainsi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire un extrait de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous réalisons que la loi a existé pendant de nombreuses années, mais que la loi n'a jamais pu enlever le péché. Comme je l'ai dit dans le passé, ce n'était qu'une prison. C'était le grand détective qui nous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait aucun remède pour vous délivrer. Il vous a mis dans un magasin à gages, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en sortir avec lui. Il vous a seulement emprisonné pour vous faire savoir que vous étiez un pécheur. Mais remarquez maintenant dans Hébreux, le 10e chapitre, comme nous l'avons lu. Car la loi ayant une ombre de choses à venir et non l'image, souvenez-vous, c'était l'ombre d'une image à venir. Une ombre introduit seulement qu'il y a une image qui fait l'ombre. Une ombre de choses à venir. Et non pas l'image elle-même. Remarquez, des choses, l'image même des choses ne peut jamais, avec ces sacrifices qui ont été offerts, continuellement rendre le venu parfait. Or, Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit, « Soyez parfaits comme Dieu au ciel est parfait. » La loi, ayant l'ombre des choses à venir, ne pouvait jamais rendre l'adorateur parfait. Vous avez compris? Maintenant, recommençons pour être sûr de ne pas la manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se tenir à son image avec un petit grain de péché. Jésus a été témoin de la chose et a dit, « Soyez parfaits comme Dieu au ciel est parfait. » Et la Bible dit que la loi ne pouvait jamais, avec ses sacrifices, amener à la perfection celui qui la rendait. À l'époque, la loi ne pouvait rien parfaire. Ce n'était qu'une indication. Ces sacrifices faits chaque année ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Donc, personne sous la loi ou le respect de la loi ou dans l'ombre ne pouvait être parfait. Car, deuxième verset, il n'aurait-il pas alors cessé d'être offert? Si je peux faire quoi que ce soit pour me rendre parfait en présence de Dieu, alors le Christ n'a pas eu à mourir pour moi. S'il y a une chose que vous pouvez faire qui mériterait quoi que ce soit en présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Ce n'est pas le fait de garder la loi, pas d'idée légaliste de votre part, pas de votre propre sainteté, pas des choses que vous pourriez arrêter de faire, arrêter de mentir, ou arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller aussi aux expositions de photos. Vous êtes toujours perdu. Rien ne peut y faire. Se joindre à des églises, des rituels, des cérémonies, des baptêmes, des ordres de l'église, lire des credos, dire des prières, toutes ces choses ne compteraient pour rien. Vous êtes perdu. Vous ne pouvez rien faire en vous-même. Car vous êtes un pécheur condamné. Et il n'y a pas une seule chose en vous, ou un seul credo, ou quoi que ce soit que vous puissiez faire ou penser, qui puisse mériter une chose en présence de Dieu. Parce que vous êtes un pécheur pour commencer. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans le monde disant des mensonges. Et si Dieu ne pouvait pas prendre un homme pour mourir pour l'autre parce que l'un est aussi coupable que l'autre, en présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde était aussi coupable que la mouche du coche de la ville. On ne peut pas expier l'un pour l'autre. Il a donc pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Sous l'Ancien Testament, la loi était que lorsqu'un homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel. Dit qu'il a, s'il a transgressé un de ses commandements, il amenait l'agneau et le déposait sur l'autel. Il posait les mains sur l'agneau et il confessait ses péchés, qu'il était dans l'erreur et qu'il savait qu'il était coupable. Et la loi exigeait la mort. Et il amenait l'agneau à sa place. Et quand la gorge du petit animal était tranchée, et il a commencé à donner des coups de pied et à bêler. Si vous avez déjà vu un agneau égorgé, quel cri pitoyable! Le pauvre petit essaye de bêler et sa petite veine jugulaire est coupée. Et quand il donne des coups de pied et tremble, et quand il se redresse, puis tremble à nouveau et bêle, et le sang jaillit, il baigne sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et comme l'adorateur se rend compte que pour avoir commis l'adultère, pour avoir menti, pour avoir volé, quelle que soit sa culpabilité, ou même pour avoir eu des mauvaises pensées, quelle que soit la moindre ombre, il était coupable. Parce que c'était sa nature. Il était coupable. Non pas peut-être par désir, mais par nature, il était coupable. Et il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place. Et il a eu pitié de cette petite chose. Mais l'homme, dès que l'agneau mourit enfin, avec le sang de l'agneau sur les mains, il quitta le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au début. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans le petit agneau, la vie repose dans le sang. Votre vie est dans votre sang. Nous le savons. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale. Donc, quand ce petit corpuscule était brisé et que la vie sortait de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Parce que l'adorateur était un être humain. Le sang formait une couverture, mais il ne pouvait pas parfaitement expier, car l'homme quittait l'édifice avec le même désir de péché qu'il avait au début. Mais en faisant cela, il attendait avec impatience le moment où un agneau parfait viendrait. Mais il le fit sur l'Holocauste, car c'était la seule façon qu'il connaissait. Ainsi, voyez-vous, quand le sang coulait et que la vie passait de l'animal, elle ne pouvait pas revenir à l'homme, car un était un animal et un était un homme, un animal innocent, un homme coupable. Mais oh, un jour, il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu naquit dans une petite crèche à Bethléem et il fut conduit comme un mouton à l'abattoir. Il y a environ 1900 ans, cet après-midi, à 3 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu immaculé, irréprochable, a été pendu à la croix du calvaire et est mort pour chaque pécheur. Maintenant, quand l'adorateur vient à cet agneau par la foi, et c'est un agneau d'un type différent, ce n'est pas un agneau comme l'autre. Personne ne peut venir à cet agneau, sauf si Dieu l'attire en premier. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que cela s'infiltre profondément maintenant. Regardez. Dieu savait qu'il avait des moutons dans ce monde. Il savait qu'il allait avoir des gens à sauver. Et son amour a regardé en bas et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par préscience, il a prédestiné une église à les rencontrer là-bas sans tache ni ride. Et si Dieu avait besoin d'une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour qu'il en soit ainsi. Il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne pouvaient pas le laisser demander une telle chose s'il n'y avait pas moyen de la faire. Et l'homme ne peut pas le faire en lui-même. Il est un échec total. Dieu l'a laissé voir cela à travers la loi, à travers les juges et à travers tout l'Ancien Testament. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé les justes et ils ont découvert que tous ont failli. Ainsi, Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portails de la gloire, son Fils unique, pour prendre notre place. Souvenez-vous que s'il avait dit au pape de Rome de la prendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au très saint révérend père ou évêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariote l'a été. Il n'aurait pas pu le faire, car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde disant des mensonges et avait besoin d'être expié pour lui-même aussi. Alléluia. Mais il y a eu un qui vint des portails de la gloire. Aucun autre, ni homme, ni homme de bien, ni un juif, ni un gentil. Il n'était rien de moins que Dieu Tout-Puissant caché dans la chair humaine. Il est venu lui-même pour offrir son propre sang. Car il n'est pas venu par le sexe. Le sexe n'a rien à voir avec cela. Mais il a éclipsé une vierge. Il a couvert de son ombre une vierge et a fait naître d'une cellule sanguine qu'il a créée lui-même, le innocent. Alors mon salut, le vôtre ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actes. Il repose sur la grâce positive et souveraine du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis en lui. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait et vous non plus. Vous ne pouvez être parfait et nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous avons cette seule consolation que notre foi repose dans un sacrifice parfait qui a été déjà reçu. Alors, comment savons-nous que nous avons reçu cela? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché et la moquerie du crachat sur son propre visage, qu'il sent les gémissements de Gethsémani, les agonies du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable, et qu'il confesse ses péchés correctement. Oh Seigneur béni, je suis coupable, et je n'ai pas d'autre moyen que toi pour m'aider. Et par la foi, tu m'ordonnes, l'Esprit Saint est venu et m'ordonne de venir. Et maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui vient de lui sur le calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était caché dans la cellule du sang du Seigneur Jésus, revient à l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous soucier du jugement. Et en me tournant et en regardant ce petit crucifix, je réalise que ça représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé. Dieu ne peut pas le juger à nouveau, car il a déjà été jugé. Dieu a frappé les jugements de la mort sur ce corps. Et tant que je peux trouver un moyen de me cacher dans ce corps, son jugement a été frappé pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romains 8, 1 dit, « Il n'y a donc aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » Voilà. Pas de condamnation. Peu importe ce qui arrive ou ce qui part, vous êtes cachés sous le sang. Encore une fois, comment pouvons-nous entrer dans ce corps? 1 Corinthiens 12, 13 dit que par un seul esprit, comment l'esprit vient-il? Par le sacrifice. Où se trouve l'esprit? Dans le sang. Pourquoi l'animal ne pouvait-il pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir vers l'esprit humain et lui faire quoi que ce soit, parce que l'esprit mettait une ligne de vue plus élevée que l'animal. Mais l'esprit d'un être humain ne pouvait pas revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est la plus haute ligne d'esprit qui existe, puisse revenir par la forme du Saint, du baptême du Saint-Esprit à l'adorateur par le sang du Christ et le prendre dans le corps. Il est en sécurité. Regardez. Le sang de taureaux et de chèvres n'a pas fonctionné car il était faible. Maintenant, commençons à lire à propos du 12e verset. Très bien. Le sang de taureaux et de chèvres ne pouvait pas fonctionner ni expier. Observez. Mais cet homme, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. Mais cet homme, après avoir offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour la parole? Écoutez ceci. Puis-je? Je veux que vous les laissiez couler. Écoutez bien. Car par un seul sacrifice, pas année après année, par renaissance après renaissance, par réunion après réunion, ou par jour après jour, mais par un seul il a PRFECTD, il a perfectionné. Par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours, c'est l'existence de Dieu, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous le voilà, c'est la réponse à la mort du Christ. C'est la réponse du calvaire. Il a absolument, avec son propre sang, racheté nos péchés et a perfectionné pour toujours ce croyant. Par conséquent, en Christ, nous nous tenons irréprochables, parfaits en présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des personnes défavorisées avec nos propres doctrines. On nous a tous appris que nous devons nous rendre à un certain endroit, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que tu aies fait. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Nous sommes maintenant, si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes perfectionnés pour toujours en présence de Dieu. Alors Jésus dit, soyez donc parfaits, puis il a été perfectionné à jamais. Dieu, par la mort du Christ, il y a 1900 ans aujourd'hui, a rendu parfait le croyant qu'il avait prévu avant la fondation du monde pour toujours. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il a perfectionné ses croyants. Maintenant, regardez, revenons maintenant au premier verset. La loi est à une ombre des choses à venir, et non l'image même de ces choses. Ne peut jamais, avec ces sacrifices qui ont été offerts année après année, rendre continuellement celui qui vient à lui, qui vient à la perfection. Regardez parfait ce dont on parle, car il n'aurait pas dû cesser d'être offert. Parce que l'adorateur, une fois purifié, n'aurait plus conscience du péché. Que voulez-vous dire? Le mot conscience là est le mot juste. La juste interprétation est désir. Si un homme vient, l'adorateur à juste titre devant le Christ, voyant sa souffrance et qui s'offre à Christ et dit, « Oh Seigneur, il n'y a rien en moi qui puisse expier, mais je dépends entièrement de toi. » Alors, cet Esprit Saint vient dans le cœur de l'homme. La question même du péché est réglée pour toujours. Car tout désir de péché t'a été enlevé. Car si la loi avait pu faire cela, ces sacrifices n'auraient pas dû cesser. Mais comme elle ne pouvait pas le faire, le Christ devait mourir pour nous rendre parfaits. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir à propos de la perfection. Nous essayons toujours d'arracher les yeux des autres de nous rendre un peu plus sains qu'eux. Ils le sont. Mais si nous ne regardons que l'image, c'est seulement la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Ici, il y a quelques temps dans l'Ohio, j'ai appris une leçon à la dure. J'avais une réunion dans l'Ohio et j'ai resté à la campagne à cause de masse. Je ne pouvais pas rester en ville. Nous avions mangé dans, nous sommes allés manger dans un petit restaurant de Dunkard et si jolie petite et de si jolie bien habillée, aussi propre qu'elle pouvait l'être, très féminine, nous attendait. C'était un petit coin du paradis. Pour manger dans un tel endroit, leur cuisine était impeccable. Et le dimanche, ils ont fermé et sont allés à leur église. J'ai eu un peu faim et j'allais prêcher le dimanche après-midi. Je suis allé dans un petit restaurant américain ordinaire, juste un petit restaurant américain ordinaire, pour manger quelque chose. Et quand j'ai traversé la porte, qu'est-ce que j'ai entendu à part une machine à sous qui faisait des bruits. Et il y avait là un homme de mon âge qui était peut-être un homme marié avec les bras autour d'une femme qui jouait à la machine à sous. Notre loi même, la protection de notre justice, de nos biens s'éteignait là, violant une injonction qu'il était censé protéger. Parce qu'il est illégal de jouer à l'argent dans l'Ohio en jouant à une machine à sous. Et je me suis tourné et j'ai regardé à l'arrière du bâtiment. Il y avait une bande d'adolescents, un vieux disque de rock'n'roll sur la machine qui jouait. Une jeune femme d'environ 18 ans, très bien en dessous de son anatomie et de femme. Et elle se tenait là avec sa robe qui pendait bas sur le devant. Un de ses garçons avec ses mains sur la fille. Là où ils n'avaient pas leur place et ils fumaient et buvaient. Et je me suis dit, oh Dieu, comment peux-tu les supporter? Et j'ai regardé à ma droite quand j'ai entendu un gros gémissement. Il y avait là une femme âgée, probablement de 60 ou 70 ans. Elle portait des vieux vêtements vulgaires à peu près à la moitié de ses membres. Et sa pauvre vieille chère idée était aussi flasque qu'elle pouvait l'être. Elle portait du maquillage pour les lèvres, un grand truc violet sur le côté de son visage, peint une petite paire de chaussures, des sandales avec des ongles de pied violets, peint des doigts, des ongles de doigts en violet, peint en violet. Et ses cheveux ont été coupés très courts, puis enroulés et teints en bleu, et je les regardais. Et de l'autre côté de la table, deux hommes étaient assis là, ivres. L'un d'eux portait un vieux pardessus militaire avec une écharpe grise autour du cou et des moustaches sur le visage. Et ils se sont excusés. L'homme l'a fait auprès d'elle, et on commençait à sortir comme ça vers les toilettes. Je suis resté là et j'ai dit, mon Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout cela? Pourquoi ne le fais-tu pas couler sous terre? J'ai dit, est-ce que mes petites Sarah et Rebecca vont devoir grandir sous ce genre de choses? J'ai dit, comment peux-tu, Dieu, dans ta grande sainteté, te tenir debout pour regarder une telle chose et ne pas envoyer un tremblement de terre et la faire couler? Et comme je me tenais là, condamnant la femme, comme je l'étais, je me suis mis en retrait derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir à moi. Et je me suis mis derrière la porte et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et quand c'était le cas dans une vie, c'était le mot qui tournait. Et comme je l'ai remarqué autour du monde, il y avait une ligne rouge autour du monde. Et quand je suis arrivé dans le monde, je me suis vu juste un petit garçon faire des choses que je ne devrais pas faire. Peut-être comme ça, pas comme ça, mais c'était le péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire aller vers les cieux, ce qui Dieu m'aurait tué à cette minute. Et je vis alors se dresser entre moi et Dieu ces parfaits sacrifices. Je le vis se tenir là, les épines sur la tête et la salive sur le visage. Et chaque fois que mes péchés commençaient à se diriger vers Dieu, il les attrapait comme le pare-choc d'une voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Cependant, sa sainteté l'exige. Sa loi l'exige. Et chaque fois que je faisais quelque chose et que vous feriez quelque chose, le sang de Jésus-Christ agit comme un pare-choc. Et je vis que cette tache écarlate signifiait que le sang tenait encore la terre. Et comme je me tenais là debout, regardant, je me suis approché un peu plus loin, un peu plus de lui et en le remarquant, et je pouvais l'entendre dire, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et je regardais en bas et là était posé un livre. Et il y avait un ange qui enregistrait et qui se tenait à ses côtés. Et chaque fois que j'ai péché, c'était inscrit sur le livre. Et mon nom était dessus. Et j'ai réalisé qu'un jour, que la trace de sang se serait lavée et que je devais me tenir en présence de Dieu avec ma vie de pécheur. Mais je vis par sa miséricorde qui m'a retardé dans son jugement. Et je suis allé à lui humblement et je me suis agenouillé et j'ai dit, « Oh Jésus, Fils de Dieu, je suis indigne de venir en ta présence. Mais veux-tu me pardonner pour ce que j'ai fait ?» Il a touché son côté avec sa main et a pris le vieux livre et a écrit « Pardonner dessus » et là, j'étais derrière lui et mes péchés ont disparu. Puis il m'a regardé le visage sévère et a dit, « Maintenant, je t'ai pardonné, mais tu veux la condamner. » Puis je vis ce que cela signifiait. En sortant de la vision, je me suis rapproché d'elle et je lui ai dit, « Comment allez-vous ? » Elle buvait, elle m'a regardé et a dit, « Oh, bonjour. » J'ai dit, « Puis-je m'asseoir ?» Elle a dit, « Où ?» Elle a dit, « J'ai de la compagnie. » J'ai dit, je ne le pense pas de cette façon, madame. Je veux juste vous parler une minute. Elle a dit, asseyez-vous. Et j'ai dit, madame, il y a quelques minutes, vous vous teniez derrière cette porte. J'ai commencé à lui dire, et que j'ai commencé à regarder, les larmes coulaient sur ses joues. Et elle m'a dit, j'ai dit, madame, vous ne voulez pas faire ces choses. Jésus est mort et les jugements de Dieu sont retenus par son sang. Vous ne voulez pas faire ça. Elle a dit, non, monsieur. Elle a dit, mon père était diacre à l'église. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon mari et moi étions membres fondateurs. Et nous menions une vie chrétienne. Elle commence à me dire qu'après sa mort, elle avait deux jeunes filles et elle s'est égarée. Et comment les filles l'avaient quittée et qu'elle avait gâché sa vie. Et elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais j'ai dit, Dieu, sois miséricordieux. Il a appelé ce qu'il a connu d'avance. Il a dit, êtes-vous le révérend Branham de là-bas? J'ai dit, je le suis. Et elle a dit, j'ai honte de moi d'être assise ici comme ça. Elle a dit, pensez-vous qu'il y aurait une chance pour moi? J'ai dit, Jésus a les bras tendus. Il attend que vous veniez, madame. Et les autres commencèrent à s'y intéresser. Et j'ai dit, voudriez-vous venir à cet âge avec moi? Elle a dit, je le ferai, monsieur. Je l'ai prise par la main, je lui ai dit, tu as à peu près l'âge de ma mère. Veux-tu t'agenouiller ici avec moi au sol? Et là, au sol, nous avons rompu cet endroit, cet après-midi par une réunion à l'ancienne mode. Et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce. Elle s'est habillée et est venue à la réunion. Et pour autant que je sache, elle mène une vie chrétienne ce soir. Qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. Mais il regarde ce soir Peu importe combien vous avez péché, peu ou beaucoup, vous êtes toujours un pécheur. Et vous ne pouvez obtenir d'autres moyens que par Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu qui suffit à tout. Et en lui, vous êtes parfait pour toujours. Pensez-y, ce n'est pas rien de ce que vous faites, ce n'est pas de nouvelles pages que vous tournez, ce n'est pas une nouvelle vie que vous commencez, c'est la confession de vos torts et la grâce de Dieu pour vous. Cela vous amène à la perfection et vous êtes alors parfait en Jésus-Christ. J'ai confiance ce soir, mon ami, alors que nous sommes ici en ce grand moment chrétien, où des décisions doivent être prises après avoir entendu cette histoire. Vous ne l'avez peut-être jamais entendue auparavant, mais vous ne pouvez pas sortir par les mêmes portes que celles par lesquelles vous êtes enterré. Vous devez sortir en même temps. Pendant que nous inclinons la tête, je veux que vous y réfléchissiez. Et votre âme ce soir, Jésus-Christ est mort pour vous. Vous dites, frère Branham, quand je pourrais arrêter de fumer, quand je pourrais arrêter de boire, quand je pourrais arranger cette chose, je le ferai. Oh, ça ne sera jamais fait correctement. Vous ne pourrez jamais le faire. Pourquoi ne pas simplement venir comme vous êtes et par la foi aller vers ce ruisseau que tes blessures coulent pour l'amour rédempteur? Ce sera ton thème et il restera pour toujours jusqu'à la mort. Pourquoi prendre un institut? Pourquoi essayer d'entrer par votre église? Pourquoi essayer d'y entrer? Parce que vous avez arrêté de boire ou de mentir. Venez par la voie de la perfection. Car par un seul sacrifice, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment puis-je être sanctifié? Confessez vos péchés en présence du sang de Jésus et la vie qui vient de ce sang revient sur l'adorateur et le sanctifie du désir des choses du monde. Car par ce sacrifice tout suffisant, il nous a sanctifiés. Un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Oh, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez toujours la chair, le sacrifice ne vous a pas été suffisamment appliqué. Mais l'adorateur, une fois lavé, n'a plus le désir du péché. C'était le calvaire. Ce n'était pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela. C'était un endroit où Dieu et l'homme étaient réconciliés. C'était le lieu où la paix et la sécurité parfaite étaient apportées à l'humanité. Pouvez-vous aller avec moi ce soir, mon ami pécheur, au calvaire? Par la foi, appliquez ce sang à votre propre âme et laissez le Saint-Esprit venir vous sanctifier par son grand sacrifice. Avant de prier, voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire, « Sois miséricordieux envers moi, Dieu, je confesse maintenant tous mes péchés en cette nuit du vendredi saint et j'apprécie la grande souffrance que Christ a endurée pour moi. J'abandonne maintenant ma propre volonté, mes propres motifs et tout pour te suivre à partir de ce jour désormais. » Voulez-vous lever la main et dire, « Souvenez-vous de moi, frère Branham, dans la prière. » C'est la décision de mon cœur. Y a-t-il une ce soir, alors que nous attendons un instant par ici à ma droite? Par ici à ma droite, il y a sûrement une là-bas. Avez-vous honte de vos péchés? Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Ce soir, le monde est à la recherche des héros. Il a des héros physiquement parlant. Un jour là-bas en Suisse, lorsque la survie des Suisses était en jeu, le petit groupe de Suisses était rassemblé dans les champs pour défendre son économie. La grande armée qui approchait était trop grande pour eux. Ils étaient tous entraînés avec des grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que d'abandonner. Ils avaient le dos contre une montagne. Et puis un héros en est sorti. Il fallait bien que quelqu'un meure. Et s'il perdait la bataille, il n'avait Que devient l'âme de faucille de pierre et de bâton pour se battre? Alors que l'armée qui arrivait ressemblait à un mur de briques. Et s'ils étaient pris, leurs charmantes petites femmes seraient enlevées, leurs jeunes filles seraient enlevées, leurs bébés seraient tués, leurs têtes seraient brisées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Alors il y a un homme dont le nom est trop vite oublié, du nom d'Arnold von Winkelried. Il est sorti et a dit, « Homme suisse, aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. » Il a dit, « Juste derrière la montagne, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et trois enfants qui m'attendent. Mais ils ne me reverront plus jamais. Car ce jour-ci, je donne ma vie pour la Suisse. » Ils ont dit, « Que feras-tu, Arnold von Winkelried ?» Il a dit, « Suivez-moi, faites de votre mieux avec ce que vous avez. » Et il a regardé l'armée jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit le plus garni de lances. Alors il mit les mains en l'air, il courut vers ce grand mur de lances et cria, « Place à la liberté, faites place à la liberté !» Une centaine de lances se sont contournées pour arrêter sa charge. Il a jeté ses bras et les a regroupés en son propre sein, ce qu'il a cloué au sol et il est mort au bout de ses lances. Ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute jusqu'à ce que les Suisses les battent et les chassent du pays. Et depuis ce jour, ils n'ont plus jamais eu de guerre. C'est un an où en Suisse est donné le nom de tenez-vous sur le nom de Wickenberg, vous verrez les larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé la patrie. Il a sauvé la patrie. C'était un grand acte héros. Il est rarement comparé à jamais dépassé sur cette terre. Mais oh, c'était une chose petite. Une petite chose par rapport à ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam s'est levée, que les démons défilaient de tous côtés, que les prophètes ont failli, que la loi a failli, que les sacrifices des taureaux et des agneaux avaient failli, que la nature de l'homme a failli et tout. La petite race d'Adam se tenait là, vaincue, dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les afflictions, les maladies. Mais il y eut un qui sortit du ciel et dit, aujourd'hui je mourrai pour la race d'Adam. Il est venu sur la terre et s'est fait chair. Il a regardé là où les milliers de lances étaient les plus sombres. Le plus sombre de toutes les terreurs de l'homme était la mort. Et il a pris la mort dans son sein. Et sur le calvaire, il a payé le sacrifice et a crié, « Faites place à la liberté !» Et il crie à son église, « Prenez ce que je vous ai laissé, mon sang et mon esprit, et battez-vous avec tout ce que vous avez. » Nous pouvons conquérir ce soir à travers cela, mon ami. Vous pouvez chasser le diable, chaque vieil ennemi qui est dans votre vie. Il peut être chassé par le sang et l'esprit du Christ. Et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence. Christ a ouvert le chemin. Pourriez-vous faire autant que de lever votre bras vers lui et dire, « Pardonne-moi, que Dieu vous bénisse. » Mon frère, quelqu'un d'autre, sois miséricordieux envers moi. Je confesse maintenant mes fautes. Y a-t-il des membres tièdes de l'Église qui vont à l'Église tous les jours et qui essaient peut-être d'être aussi pieux que possible? Mais vous savez pourtant que ce tempérament-là, cette indifférence, cet égoïsme, ces habitudes vous collent à la peau jusqu'à ce que vous n'avez plus de victoire. Voudriez-vous être purifié par le sang ce soir de tout cela, car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus de conscience. Voulez-vous lever la main pour moi, vous, membres d'une église? Que Dieu vous bénisse, madame. Levez vos mains et dites, frère Branham, souviens-toi de moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est vrai, c'est une vraie chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre lève la main et dit, « Sois miséricordieux envers moi, Dieu. Je sais que je professe le christianisme, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le vis pas. Et dans mon cœur, je ne suis pas vraiment en ordre avec Dieu. Je vais être l'un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais mis de côté le fardeau qui m'environne si facilement. Je vais le mettre de côté. Pourriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, juste un peu en attendant. Juste un peu. Pendant que nous attendons tranquillement, tout le monde maintenant la tête baissée, fredonnez doucement ceci. Il y a une fontaine. Plongé dans ce flot, perd tout leur suie, perdent. Ne voulez-vous pas y réfléchir maintenant? N'essayez pas de les laver. Christ est sur vos mains. Pilate a essayé ce matin vers 6 heures, mais ses mains sont encore ensanglantées par la culpabilité. Vous savez ce qui lui est arrivé. Il est allé en Suisse. Bien des années plus tard, il a perdu l'esprit. Il s'est noyé dans un étang d'eau. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes viennent voir la scène. L'eau bleue bouillonne du fond de ce grand trou d'eau. Ils le font chaque année, c'est une vieille légende. On dit que Dieu a refusé l'eau pour laver les mains. Frère, peu importe combien de fois vous êtes baptisé, quoi que vous essayez de faire, rien ne te nettoiera les mains sauf le sang de Christ. Dieu l'a refusé, l'eau bleue après 2000 ans, presque bouillonne encore. Dieu l'a refusé. Votre propre justice ne peut pas nettoyer vos péchés. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pensez-y maintenant, nous allons prier juste un moment, un instant. Je me demande si je pourrais demander quelque chose ce soir. Quand il s'est tenu ce matin dans le salle du jugement de Pilate et a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais parler à mon Père et aussitôt il m'enverrait 12 légions d'anges, quand l'un d'entre eux pourrait détruire le monde. Je lui parlerai et d'autres légions d'anges seraient à ma disposition. Il aurait pu le faire, mais il se tenait là doux et humble pour prendre votre part et prendre vos péchés. Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir, vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu? Voulez-vous vous lever pour cette prière? Tenez-vous debout, vous qui voulez qu'on se souvienne de vous dans cette prière en disant, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, je suis coupable, j'ai fait des choses mal. Je veux maintenant accepter mon pardon à travers Christ Jésus. » Allez-vous vous lever à ce moment précis, que Dieu vous bénisse. Jeune fille, c'est ça le courage, restez simplement debout. Voulez-vous me dire que vous avez levé la main et que vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever? Quel bien l'Évangile vous a-t-il jamais fait? Oh, quel jeu avec l'Église, quel jeu avec Dieu. Le reproche, un de ces jours, une bombe atomique va frapper quelque part par ici dans une de ces grandes usines de poudre. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Il sera trop tard et peut-être avant Pâques prochain ou même cette Pâques. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire, Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. J'accepte maintenant le Christ par l'offrande de lui-même comme une propitiation pour mes péchés par sa grâce, à sa grâce seule. Je demeure en présence de Dieu. Allez-vous avouer votre erreur? Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde. C'est à vous de décider. Il observe. Maintenant, notre Seigneur béni, dans le nombre approprié, ce soir, se tiennent trois âmes pénitentes, un homme et deux femmes. Alors, je pense, Seigneur, au calvaire, lorsqu'un de deux côtés a dit, Seigneur, souviens, l'un de deux côtés a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et l'autre a dit, si c'est toi, Montre-nous un miracle, enlève-nous de la croix et sauve-toi toi-même. Et l'autre a dit, Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et sa tête s'est inclinée du côté droit et a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais vous vous êtes tué devant l'autre parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et Père, je prie pour ceux-ci, peut-être je crois qu'ils sont les trois seuls dans le bâtiment qui ressentent le besoin de confesser leur tort, mais qui sont venus par le chemin de la croix, le chemin tout suffisant, pardonne-leur. Seigneur, bénissez-les. Ils sont ici ce soir comme tu les as défendus dans la salle du jugement de Pilate, comme tu les as défendus entre les cieux et la terre quand le soleil s'est couché et que la lune n'a pas voulu donner sa lumière. Et que les voiles du temple s'est déchiré du haut en bas. Je prie Dieu que tu les bénisses et que tu leur accordes ta miséricorde. Et que tu les purifies par ton sang. Et que tu les baptises par ta puissance sanctifiante dans le corps de ton propre Fils Christ Jésus. Afin qu'ils soient préservés pour le temps et pour l'éternité. Bénis les autres qui se sentent en ordre, qu'ils ont déjà rencontré ceci et l'ont fait. Je prie cette bénédiction pour eux au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui tenez près de ceux qui se sont levés, tenez la main serrée, leur main. Quelqu'un dit que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, comme main d'association. Nous sommes maintenant un peu en retard dans notre service. Combien aime le Seigneur Jésus? Levez la main. Je me demande en silence maintenant ou juste en silence comme nous le pourrions, en commémoration de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pourrions chanter à la croix. À la croix, mon Sauveur.
There to my heart, when you met the requirement, laid your hands upon him. There to my heart,
à la croix où mourit.
Oh, glory to his name. Let us sing softly now as we bow our heads to him.
Down la croix où mon Sauveur. Là, mon cœur fit. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Là, le sang a été versé dans mon cœur. Gloire à son nom. Tranquillement avec, si la tête inclinée, vous êtes qui est sauvé, levez la main maintenant. Oh, précieux, fontaine qui sauve le péché. Je suis si heureux d'être entré. Là, Jésus me sauve et me garde. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. La leçon a été appliquée dans mon cœur. Gloire à son nom. Maintenant, les mains baissées, la tête inclinée, je viens de penser, quelqu'un a appelé il y a quelques instants et a dit que quelqu'un voulait qu'on se souvienne de lui ce soir dans la prière pour son corps. Il ne pouvait pas revenir à la réunion du dimanche soir pour le grand service de guérison. Pourriez-vous vous lever, vous qui voulez qu'on se souvienne de vous dans cette prière maintenant? Le son était a été appliqué dans mon cœur. Gloire à son nom. Gloire à... Maintenant, la tête inclinée. Il a été blessé pour nos transgressions. Brisé pour votre iniquité. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéri. Gloire à son nom. Maintenant, Père béni, alors que nous nous approchons humblement de la croix où la grâce et la miséricorde m'ont trouvé, là, l'étoile du matin brille autour de moi. Ces malades se tiennent en ta présence. Ils croient en ce moment même que, par la foi, ils regardent ces dos meurtris là-bas. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Père très saint, nous venons confesser notre foi, croyant que tu guéris nos corps malades par la grande souffrance vicariante du Seigneur Jésus. Et nous offrons pour ce peuple qui est debout une prière de foi que tu as promis qu'elle guérira les malades. Et nous, ensemble, comme une unité de tes croyants ce soir, tu as dit, partout deux ou trois sont réunis. Je serai au milieu d'eux et nous demandons la miséricorde pour eux, afin que ta grâce puisse maintenant toucher leur âme intérieure. Que quelque chose s'ancre profondément. Qu'ils sachent que le Christ est ici et leur a parlé en disant, « Mon enfant, j'ai pris ta maladie là-bas au calvaire. Maintenant, jette tous tes soucis sur moi, car je prends soin de toi. » Et qu'ils soient guéris, tout esprit entier, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Et comme ils s'asseyaient maintenant, quelqu'un de leur entourage leur imposa le main, quelqu'un qui prie pour eux. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Que le Seigneur bénisse. Si je ne me trompe pas, ne suis-je pas en train de regarder l'homme qui a été guéri il y a quelques jours, il y a quelques dimanches qui était sourd ou quelque chose dans les oreilles? Je vois que vous appréciez la réunion de ce soir. Vous m'entendez bien maintenant? C'est bien, merveilleux. Mettez-vous debout un moment, un instant. Combien se souviennent de sa présence ici? Il est passé par la ligne de prière, l'a ramené sur l'estrade, et le Seigneur l'a guéri, et l'a fait guérir. Il l'a rendu bien. Que béni soit le Seigneur, merci pour ton point. Il pourrait être douzaine, mais n'est-il pas? Maintenant, nous voulons voir demain soir de bonne heure et puis dimanche de bonne heure, dimanche après-midi, si vous pouvez revenir pour les services de guérison dimanche, ce soir. En attendant, nous pour nous raconter, chantons notre chanson, prenons le nom de Jésus avec vous. Oui. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de chagrin et de douleur. Apportera la joie et réconfort. Tournez-vous et serrez la main de tout le monde. Amenez partout où vous allez. Précieux nom. Tournez-vous à droite et serrez la main. Oh, comme c'est gentil. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom. Précieux nom. Si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Mais regardez ce côté-ci, au nom de Jésus, tout s'incline. Tombant protestant, c'est devant à ses pieds, roi de rois. Le ciel le couronneront. quand, lorsque notre voyage sera fini. Précieux nom, comme c'est beau, oh, comme c'est doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, oh, combien doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Souvenez-vous maintenant de la chorale Neville Equator diffusée matin à 9h. Le frère Sticker est revenu à 9h45. Dimanche matin, on a fait une bande cassette cet après-midi sur la résurrection. Maintenant, jusqu'à notre prochaine rencontre, que les bénédictions du Seigneur soient avec vous alors que nous inclinons la tête. Je vais demander à mon ami, mon bon ami frère Palmer de Macon, en Géorgie, s'il peut venir faire sortir cette audience par un mot de prière.